Chapitre 39. Les deux pièces du premier étage de la maison de la Piazza di Spagna sont petites, étroites, hautes de plafond et plongées dans l'obscurité, à l'exception d'une petite lampe brûlant faiblement dans un coin de chacune des chambres, comme si des spectres les avaient éclairées en prévision de la visite d'autres spectres. Mon lit se trouve dans la plus petite des deux chambres, celle qui donne sur la piazza, bien que la seule chose que l'on puisse voir ce soir derrière les fenêtres hautes soit une obscurité épaisse où se découpent des ombres encore plus noires, le tout ponctué par le murmure incessant de l'invisible fontaine de Bernini. Des cloches sonnent toutes les heures à l'un des clochers jumeaux de Santa Trinita dei Monti, l'église tapie dans le noir comme un félin massif en haut des marches. Chaque fois que je les entends égrener les brèves notes des petites heures du matin, j'imagine des mains de fantômes en train de tirer sur des cordes en décomposition. Ou peut-être des mains en décomposition en train de tirer sur des cordes fantômes. Je ne sais pas, tout au long de cette nuit sans fin, laquelle de ces deux images est la plus adaptée à mon humeur macabre. La fièvre m'oppresse comme une lourde et moite couverture. Ma peau est tour à tour brûlante et mouillée. À deux reprises, j'ai été saisi par la toux. La première quinte a fait accourir Hunt de l'autre chambre. Ses yeux se sont agrandis à la vue du sang que j'avais vomi sur les draps damassés. La seconde quinte, je l'étouffais de mon mieux, en me levant pour tituber jusqu'à la table où se trouvait la cuvette et y cracher de petites quantités de mucus et de sang noir. Hunt ne s'est pas réveillé. Quelle ironie de se retrouver ici, d'avoir fait tout ce chemin pour être de nouveau dans cette maison obscure et dans ce lit sinistre. Je me souviens confusément de m'être réveillé dans ce même lit, miraculeusement guéri avec le vrai Severn et le docteur Clark, et même la petite signora Angeliti qui attendait dans le hall. Je me souviens de ma convalescence après la mort, et du temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte que je n'étais pas Keats, que ce n'était pas la vraie terre, que nous n'étions pas dans le même siècle que celui où j'avais fermé les yeux en croyant que c'était pour la dernière fois, et aussi que je n'étais pas humain. Au début de l'après-midi, vers 2 heures, je m'endors. Et je rêve. Je n'avais jamais rien rêvé de semblable. Je flotte en m'élevant lentement dans l'infoplan, dans l'infosphère et dans la mégasphère. J'arrive finalement dans un endroit que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, pas même en rêve. Un endroit où règnent les espaces infinis, où le temps semble figé et les couleurs indescriptibles. Il n'y a ni horizon, ni plafond, ni sol, ni rien de tangible. Je baptise ce lieu la métasphère, car j'ai senti immédiatement que ce niveau de réalité consensuelle inclut toutes les variétés et tous les caprices des sens que j'ai connus sur la Terre, toutes les analyses binaires, tous les plaisirs intellectuels que j'ai sentis couler du technocentre à l'infosphère, et par-dessus tout, une sensation de, comment dire, d'expansion, de liberté, de potentialité, je pense. Oui, ce doit être le mot que je cherchais. Je suis tout seul dans cette métasphère. Les couleurs flottent au-dessus de moi, sous moi, à travers moi. Elles se dissolvent quelquefois en de vagues pastels, ou s'agglomèrent en nuages fantaisistes, ou bien encore, plus rarement, semblent constituer des assemblages plus tangibles qui pourraient évoquer des formes humanoïdes. Je les contemple comme un enfant pourrait admirer les nuages, en imaginant y voir des éléphants, des crocodiles du Nil, et des torpilleurs majestueux qui évoluent d'ouest en est par un jour de printemps dans la région des lacs. Au bout d'un moment, j'entends des bruits. Le ruissellement à vous rendre fou de la fontaine Bernini sur la place, les froissements d'ailes et les roucoulements des pigeons sur la corniche au-dessus de ma fenêtre, les gémissements étouffés de Leg Hunt dans son sommeil. Mais par-dessus et en deçà de tous ces bruits, j'entends des sons plus furtifs, moins réel peut-être, mais infiniment plus menaçant. Quelque chose d'énorme s'avance vers l'endroit où je suis. Je fais des efforts pour percer la pénombre pastel. Cela se déplace juste en deçà de l'horizon visible. Je sais que cette chose connaît mon nom, et qu'elle tient ma vie dans une main et la mort dans l'autre. Il n'y a nul endroit où se cacher dans l'espace au-delà de l'espace. Je ne peux pas m'enfuir en courant. Le chant des sirènes de la douleur continue de monter et descendre dans le monde que j'ai laissé derrière moi. Il exprime les douleurs quotidiennes de tous ceux qui le peuplent, la douleur de ceux qui souffrent de la guerre qui vient de commencer, la torture ponctuelle, spécifique, de ceux qui sont empalés sur l'arbre terrifiant du Gritch, et, plus forte encore, la souffrance que je ressens à la place des pèlerins et de tous les autres dont je partage à présent la vie et les pensées. Cela vaudrait la peine de me lever pour courir à la rencontre de cette formidable figure du destin, si seulement elle pouvait me libérer du champ de douleur qui m'enveloppe.
Séverne ! Séverne !
Un instant, j'ai l'impression que c'est de moi que sort cet appel, exactement comme la dernière fois où je me suis trouvé dans la même situation, criant dans la nuit le nom de Joseph Séverne lorsque la douleur et la fièvre dépassaient mon pouvoir de les contenir. Et il était toujours là, avec sa lenteur massive et bienveillante, avec ce sourire doux que j'avais parfois envie d'effacer de ses lèvres au moyen d'une remarque acerbe ou d'un geste mesquin. Il est dur de rester bien disposé envers les autres quand on est en train de mourir. Je n'avais pas manqué de générosité dans ma vie. Pourquoi fallait-il que je continue de jouer ce rôle alors que c'était moi qui souffrais, moi qui crachais des morceaux de poumon dans un mouchoir noir de sang ?
Séverne !
Ce n'est pas ma voix. Hunt me secoue par les épaules. C'est lui qui crie le nom de Séverne. Je comprends qu'il s'adresse à moi, en croyant que je suis Séverne. Je repousse sa main d'un geste brusque et je laisse retomber ma tête au creux de l'oreiller.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Vous gémissiez, me dit le collaborateur de Gladstone. Vous appeliez dans votre sommeil.
Un cauchemar. Rien de plus.
Vos rêves sont généralement plus que de simples rêves, me dit Hunt.
Il regarde la petite chambre autour de lui. Elle est éclairée par la lampe qu'il a apportée avec lui.
Quel endroit sordide, Séverne !
Je m'efforce de lui sourire.
Cette chambre me coûtait 28 shillings par mois. 7 scudi. Du vol.
Il fronce les sourcils tandis que la lumière rend ses rides plus marquées que d'ordinaire.
Écoutez, Séverne, je sais que vous êtes un cybride. Gladstone m'a dit que vous étiez la personnalité récupérée d'un poète nommé Keats. De toute évidence, tout ce qui nous entoure...
Il fit un geste d'impuissance englobant la chambre, les ombres, les rectangles des hautes fenêtres, le lit haut.
Est en rapport avec cela, mais de quelle manière ? À quel jeu joue le technocentre ici ?
Je ne sais rien de précis, lui dis-je sincère.
Mais cet endroit vous est familier ?
Bien sûr.
Expliquez-moi, supplie Hunt.
Ce n'est pas tant le ton de cette requête que la réserve dont il a fait preuve jusqu'ici, en ne me demandant pas d'explication qui me décide à lui raconter ce que je sais. Je lui parle du poète John Keats, né en 1795, de sa brève existence, souvent malheureuse, de sa mort à la suite d'une phtisie en 1821 à Rome, loin de ses amis et de son unique amour. Je lui raconte aussi ma guérison, mise en scène dans cette même chambre, ainsi que ma décision de prendre le nom de Joseph Séverne, le peintre qui est resté au chevet de Keats jusqu'à sa mort. Enfin, je lui parle de mon court séjour dans le Retz, où je me suis contenté d'observer et d'écouter, condamné à rêver la vie des pèlerins du Gritch sur Hyperion, et d'autres vies aussi.
« Des rêves ?» me dit Hunt. « Vous voulez dire que, même en ce moment, vous rêvez de ce qui se passe dans le Retz ?»«
Oui. »
Je lui parle de mes rêves de Gladstone, de la destruction d'Evansgate et du Bosquet de Dieu, des images confuses qui me parviennent d'Hyperion. Hunt fait les 100 pas dans la chambre étroite. Son ombre se profile sur les murs lépreux et sur le plafond.
Est-ce que vous pouvez les contacter ? Ceux dont je rêve ? Gladstone ? Impossible. Vous en êtes sûr?
J'essaie de lui expliquer. Je ne suis même pas dans ses rêves, Hunt. Je n'ai aucune voix, aucune présence, aucun moyen de communiquer.
Mais vous rêvez parfois leurs pensées.
Je réfléchis. C'est vrai. Disons que c'est assez proche de la vérité. Je ressens leurs impressions.
Vous ne pourriez pas laisser une petite trace dans leur esprit, dans leurs souvenirs, leur faire savoir que nous sommes là?
Non. Il se tasse dans le fauteuil au pied de mon lit. Soudain, il semble très vieux et très accablé. Même si je pouvais entrer en contact avec Gladstone, ce qui est impossible, je ne vois pas à quoi cela pourrait nous servir, Leg. Je vous ai déjà expliqué que cette réplique de l'ancienne Terre se trouvait dans le nuage de Magellan. Même aux vitesses quantiques de la propulsion Hawking, il faudrait des siècles pour que quelqu'un parvienne jusqu'à nous.
Nous pourrions au moins les mettre en garde,
fait Hunt d'une voix si lasse qu'elle semble presque morose. Les mettre en garde à propos de quoi? Tous les pires cauchemars de Gladstone sont en train de se concrétiser autour d'elle. Croyez-vous qu'elle fasse confiance au technocentre, hein? Elle sait que c'est lui qui nous a enlevés sans vergogne. Les événements vont trop vite pour que quiconque dans l'hégémonie puisse les suivre. Hunt se frotte les yeux. Puis il noue ses mains sous son nez. Il me regarde d'une manière presque inamicale.
Vous êtes vraiment la personnalité récupérée d'un poète.
Je ne réponds pas.
Récitez-moi des vers. Improvisez quelque chose.
Je secoue la tête. Il est tard. Nous sommes tous les deux épuisés et apeurés. Mon cœur bat encore très fort après le cauchemar que j'ai fait tout à l'heure et qui n'en était pas un. Je ne laisserai pas Hunt me faire perdre mon calme.
« Allez !» insiste-t-il. « Prouvez-moi que vous êtes une nouvelle version améliorée de Bill Keats. »«
John, » lui dis-je d'une voix douce.
« Peu importe. Allez, Severn, ou John, si vous préférez. Récitez-moi quelque chose. »
« D'accord. Écoutez ça, » lui dis-je en soutenant son regard. Il y avait un méchant garçon, et méchant, il l'était vraiment, car il ne voulait rien faire d'autre qu'écrire de la poésie. Il prit un encrier dans une main et un porte-plume, gros comme un pain, de l'autre. Il courut se réfugier dans les montagnes, près des sources et des fantômes et des bois et des sorcières et des fossés, et écrivit, dans son manteau quand l'air était froid, par peur de la goutte, et à l'air libre quand l'air était chaud. Ouch, quel charme de ne suivre que le bout de son nez, vers le nord, de ne suivre que le bout de son nez vers le nord.
« Je ne sais pas, » murmure Hunt. « Cela ne ressemble pas tellement à quelque chose qu'écrirait un poète dont la renommée a traversé 10 siècles. »
Je hausse les épaules.
« Avez-vous rêvé de Gladstone cette nuit? Pourquoi avez-vous poussé ces cris ?»«
Rien à voir avec elle. C'était un vrai cauchemar pour une fois. » Il se lève, prend sa lampe, et se prépare à sortir en me laissant dans l'obscurité. J'entends le bruit de la fontaine en bas sur la piazza et celui des pigeons sur la corniche.
« Demain, » me dit-il, « nous essaierons de donner un sens à tout cela et de trouver un moyen de partir d'ici. S'ils ont pu nous distransporter à l'aller, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas faire le retour de la même manière. »
Peut-être. Lui dis-je, sceptique.
Bonne nuit. Ne faites plus de cauchemars, d'accord?
D'accord, lui dis-je, encore plus sceptique. Moneta traîna le blessé à l'écart du Gritch et sembla maintenir le monstre à distance de sa main tendue,
pendant qu'elle sortait un tor bleu de sa ceinture de combinaison et le secouait derrière elle. Un ovale incandescent de 2 mètres de haut se forma dans l'air.
« Laisse-moi y retourner, » murmura Kassad. « Finissons-en. »
Il y avait du sang à l'endroit où les griffes du Gritch avaient fendu la combinaison du colonel. Son pied droit pendait comme s'il était à demi sectionné. Il ne pouvait plus s'appuyer dessus, et le seul fait d'avoir lutté avec le monstre, porté par lui dans une horrible parodie de danse, l'avait maintenu debout durant leur combat.
« Laisse-moi y retourner, » répéta Fedman Kassad.
« Tais-toi, » murmura Moneta. « Tais-toi, mon amour. »
Elle le traîna à travers l'ovale doré, et ils émergèrent dans une lumière d'airain. Malgré ses souffrances et l'état d'épuisement où il se trouvait, Kassad fut ébloui par le spectacle. Il n'était plus sur Hyperion, il en avait la certitude. Une vaste plaine s'étendait jusqu'à un horizon situé beaucoup plus loin que la logique ou l'expérience ne l'autorisait. Une herbe drue et orangée, si toutefois c'était bien de l'herbe, poussait sur les plaines et les collines basses comme un duvet sur le dos d'une chenille énorme, tandis que des choses qui ressemblaient à des arbres se dressaient comme des sculptures en carbone renforcées, avec leurs troncs et leurs branches quasi échériennes, dans leur improbabilité baroque et leur profusion de feuilles ovales d'un bleu foncé et d'un violet miroitant vers un ciel flamboyant de lumière dorée. Ce n'était cependant pas la lumière d'un soleil. Pendant que Moneta l'éloignait de l'ovale en train de se refermer, Kassad ne pensait pas qu'il pût s'agir d'une porte distrance, car il était persuadé d'avoir franchi non seulement de l'espace, mais du temps. Vers un bosquet de ces arbres impossibles, il leva les yeux vers le ciel et ressentit quelque chose qui était proche de l'émerveillement. La lumière avait la même intensité que le jour d'Hyperion ou l'éclairage de la galerie marchande sur l'Usus à midi, ou une journée d'été sur le plateau de Tarsis sur le monde natal de Kassad. Il avait l'impression d'être au centre de la galaxie. Au centre de la galaxie. Un groupe d'hommes et de femmes en combinaison de lumière sortirent de l'ombre des arbres eschériens et entourèrent Moneta et Kassad. L'un des hommes, un géant, même selon les critères martiens de Kassad, le regarda, tourna la tête vers Moneta et sembla communiquer avec elle, bien que Kassad n'entendît rien sur la radio de sa combinaison et sur ses récepteurs à faisceau étroit.
« Détends-toi. »
lui dit Moneta en posant la tête de Kassad sur le tapis d'herbe orangée. Il voulut dire quelque chose et se redresser, mais le géant et Moneta lui touchèrent en même temps les épaules et il laissa retomber sa tête. Sa vision s'emplit de feuilles violettes qui remuaient doucement et d'étoiles lointaines. L'homme le toucha de nouveau. La combinaison se désactiva. Kassad fit le geste de se couvrir en s'apercevant qu'il était nu au centre d'un petit cercle qui s'était assemblé autour de lui, mais Moneta l'empêcha de bouger d'une main ferme. À travers la douleur de ses membres meurtris, il sentit vaguement la main de l'homme qui lui tâtait le bras et le torse, puis descendait le long de sa jambe jusqu'à l'endroit où le tendon d'Achille avait été sectionné. Il ressentait un froid intense partout où le gantelet argenté du géant le touchait. Puis sa conscience se mit à flotter comme un ballon, très haut au-dessus de la plaine et des collines. Il dérivait vers la voûte étoilée, où une silhouette massive l'attendait, sombre et sinistre, comme un gros nuage noir au-dessus de l'horizon, grande comme une montagne.
« Kassad !» chuchota Moneta.
Il se sentit revenir peu à peu vers elle.
« Kassad !» souffla-t-elle de nouveau.
Il sentit ses lèvres sur sa joue. Sa combinaison réactivée était mêlée à celle de Moneta. Il se redressa en même temps qu'elle. Secouant la tête, il vit qu'il était de nouveau vêtu de lumière argentée. Il se mit debout. Il ne ressentait plus aucune douleur. Son corps fourmillait en une douzaine d'endroits, là où ses blessures avaient été guéries et ses plaies cicatrisées. Il fit entrer sa main à travers sa propre combinaison, toucha sa propre chair à travers son gantelet, fléchit les genoux, se toucha le talon. Il ne sentit aucune cicatrice.
« Merci, »
dit-il au géant sans savoir si celui-ci l'entendait. mais le géant inclina la tête avant de rejoindre les autres.
« C'est une sorte de docteur, » fit Moneta. « Un guérisseur. »
Cassad l'écoutait à peine. Il concentrait son attention sur les autres. Ils étaient humains, il le savait du fond du cœur, mais d'une variété étonnante. Leur combinaison n'était pas toute argentée comme celle de Moneta et la sienne. Elles avaient des couleurs différentes et changeantes, d'aspect organique et doux, comme la fourrure d'un animal sauvage. Seul un miroitement subtil, qui rendait légèrement flous les traits du visage, indiquait qu'ils portaient une combinaison. Et leur anatomie était aussi variée que leur couleur. Le guérisseur avait à peu près la même stature que le Gritch, des sourcils épais et une crinière fauve qui semblait faite d'énergie pure. La personne qui se trouvait à côté de lui avait la taille d'un enfant, mais c'était visiblement une femme, aux membres parfaitement proportionnés, aux jambes musclées, aux seins menus, mais avec des ailes de 2 mètres de haut qui se dressaient dans son dos. Et ce n'était pas un ornement superflu, car une brise coucha bientôt l'herbe orangée de la prairie, et elle fit quelques pas en courant, écarta les bras et s'éleva gracieusement dans les airs. Derrière un groupe de femmes minces, de haute taille, aux mains palmées et aux longs doigts, vêtues de combinaisons bleuâtres, se tenaient plusieurs hommes trapus, aussi bardés d'armure et de casque qu'un marine de la force sur le point d'aller à la bataille dans le vide spatial. Au-dessus d'eux, quelques hommes ailés se laissaient porter par un thermique, tandis que de fins rayons jaunes de lumière cohérente pulsaient parmi eux selon un code complexe. Les lasers semblaient issus d'une sorte d'œil que chacun d'eux avait sur la poitrine. Cassad secoua de nouveau la tête.
« Il faut partir, » lui dit Moneta. « Le Gritch ne peut pas nous suivre ici. Ces guerriers ont assez de problèmes de leur côté pour s'attaquer aussi à cette manifestation particulière du Seigneur de la douleur. »«
Où sommes-nous ? » demanda Cassad.
Elle fit apparaître un ovale violet à l'aide d'une férule dorée passée à sa ceinture.
« Dans un futur éloigné de l'humanité, l'un de nos futurs. » C'est ici que les tombeaux du temps ont été formés et lancés dans le passé.
Cassad regarda de nouveau autour de lui. Quelque chose d'énorme était en train de se déplacer dans le champ des étoiles, occultant des milliers d'entre elles, projetant son ombre durant quelques secondes à peine avant de disparaître totalement. Les hommes et les femmes levèrent la tête un court instant, puis retournèrent à leurs occupations qui semblaient consister à cueillir de petits objets dans les arbres, à se grouper pour regarder de petites cartes lumineuses qu'un simple claquement de doigts faisait apparaître, ou à voler vers l'horizon à la vitesse d'une flèche. Un individu de courte taille, aux formes arrondies, de sexe indéterminé, s'était enfoui dans le sol meuble, et l'on ne voyait plus de lui qu'une basse crête de terre qui avançait en large spirale concentrique autour des autres.
« Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda de nouveau Cassad. « Où sommes-nous ?»
Soudain, il se sentait au bord des larmes, comme si, au détour d'une rue peu familière, il s'était brusquement retrouvé sur les lieux de son enfance, dans le camp de regroupement de Tarsis, où sa mère, depuis longtemps morte, l'attendait sur le seuil en lui faisant de grands signes, et où ses amis oubliés, ses frères, l'attendaient pour une partie de scoutball.
« Viens !» lui dit Moneta.
Il ne pouvait se méprendre sur l'urgence contenue dans sa voix. Elle l'entraîna vers l'ovale luminescent. Cassad ne quitta pas des yeux la voûte étoilée et les humains jusqu'à ce qu'ils soient passés de l'autre côté et que l'interface s'opacifie. Ils ressortirent dans l'obscurité. Il fallut quelques secondes à la combinaison de Cassad pour que ses filtres compensent sa vision. Il vit qu'ils étaient au pied du monolithe de cristal, dans la vallée des tombeaux du temps d'Hyperion. C'était la nuit. De gros nuages bouillonnaient dans le ciel. Une tempête faisait rage. Seules les pulsations des tombeaux éclairaient la scène. Il ressentit la nostalgie subite de l'endroit qu'il venait de quitter, avec sa lumière harmonieuse et son décor si propre. Puis il se concentra sur ce qu'il y avait autour de lui. Sol Weintraub et Braun Lamia étaient dans la vallée à 500 mètres de là. Sol était penché sur la jeune femme étendue au pied du tombeau de jade. Le vent faisait tournoyer la poussière autour d'eux, de sorte qu'ils ne pouvaient pas voir le Gritch en train de s'avancer dans leur direction, telle une ombre mouvante et sinistre sur le sentier qui passait devant l'obélisque. Fedman Kassad émergea de la zone obscure qui entourait le marbre noir du monolithe et s'avança en évitant les échardes de cristal répandues sur le chemin. Il s'aperçut que Moneta était toujours accrochée à son bras.
« Si tu le provoques encore, » murmura-t-elle d'une voix suppliante, « le Gritch te tuera. »
« Ce sont mes amis, » fit Kassad.
Son équipement de la force et son armure déchiquetée se trouvaient là où Moneta les avait laissés quelques heures plus tôt. Il alla chercher dans le monolithe son fusil d'assaut et un chapelet de grenades, puis vérifia que tout fonctionnait encore et que les charges étaient au maximum. Il ôta les sécurités, ressortit du monolithe et s'élança au pas de course pour intercepter le Gritch. Je me réveille au son de l'eau qui coule. Un instant, je crois m'être assoupi devant la cascade de Lodore pendant ma promenade avec Brown. Mais l'obscurité, lorsque j'ouvre les yeux, est aussi terrifiante que lorsque je dormais, et l'eau fait un bruit sinistre qui n'a rien à voir avec celui de la cascade immortalisée par Souté dans son poème. Je me sens mal. Ce n'est pas seulement le mal de gorge qui m'a pris lorsque nous sommes redescendus avec Brown du Skidoo, dont nous avions fait stupidement l'ascension avant le petit déjeuner, mais un mal profond, mortel, qui m'endolorit tout le corps et qui me brûle le ventre et la poitrine d'un feu intense, implacable. Je me lève pour aller à tâtons jusqu'à la fenêtre. Une lumière pâle filtre sous la porte de la chambre de Leigh Hunt. Il s'est endormi en oubliant d'éteindre la lampe. J'aurais peut-être dû faire comme lui, mais il est trop tard maintenant. Je me rapproche du rectangle un peu plus pâle de la fenêtre. L'air est frais, chargé de senteurs de pluie. Je comprends que le bruit qui m'a réveillé est celui du tonnerre. Il y a des éclairs qui illuminent les toits de Rome. Aucun bâtiment de la ville n'est éclairé. En me penchant un peu par la fenêtre ouverte, je vois les marches luisantes de pluie qui dominent la piazza et les clochers de Trinità dei Monti qui se profilent à la faveur des éclairs. Le vent qui souffle d'en haut est glacé. Je vais prendre une couverture sur le lit et je m'en drape avant de traîner une chaise devant la fenêtre pour m'y asseoir et contempler le spectacle, perdu dans mes pensées. Je revois mon frère Tom dans ses derniers jours, la figure déformée par les terribles efforts qu'il devait faire pour respirer. Je revois ma mère, toute pâle, le visage presque luisant dans la pénombre de la chambre. Ma sœur et moi, nous avions le droit de toucher sa main moite et de déposer un baiser sur son front enfiévré avant de nous retirer. Un jour, je me suis furtivement essuyé les lèvres en sortant, non sans jeter un regard de côté à ma sœur et aux autres pour voir si quelqu'un avait remarqué mon geste impie. Lorsque le docteur Clark et un chirurgien italien pratiquèrent l'autopsie de Keats, moins de 30 heures après sa mort, ils constatèrent, comme l'écrivit plus tard Severne à un ami, les ravages effectués par la pire forme de phtisie que l'on puisse trouver. Les poumons étaient entièrement détruits, les cellules avaient disparu. Ni le docteur Clark, ni le chirurgien italien ne comprenaient comment le poète avait survécu les 2 derniers mois ou plus. Je pense à tout cela dans l'obscurité de la chambre, en regardant la piazza. J'écoute les bouillonnements qui montent de ma poitrine et de ma gorge. Je sens la douleur comme un feu intérieur. Mais j'entends également les cris encore plus terribles de Martin Silenus sur son arbre, qui expie pour avoir écrit les vers que j'ai été trop faible et trop lâche pour achever. J'entends les cris de Fedman Kassad, qui se prépare à mourir déchiré par les griffes du Gritch. J'entends les cris du consul forcé de trahir une seconde fois. Les cris des Templiers qui par milliers se lamentent sur la mort de leur monde et de leur frère Etmastin. Ceux de Brand Lamia, qui songe à son amour défunt, mon jumeau. Ceux de Paul Duré sur son lit d'hôpital, qui se bat contre ses brûlures et contre ses souvenirs cuisants, trop conscient de la présence du cruciforme tapis à l'intérieur de sa poitrine. Ceux de Sol Weintraub, qui martèle du poing les sables d'Hyperion en appelant son enfant,
le bébé Rachel, dont les vagissements résonnent encore à mes oreilles. Bon Dieu de merde ! Je martèle du poing moi aussi la pierre et le ciment du rebord de la fenêtre, en répétant « bon Dieu de merde !» Au bout d'un moment, tandis que les premières lueurs de l'aube apparaissent, je m'éloigne de la fenêtre pour regagner mon lit. Je m'étends, les yeux fermés. Juste quelques instants. Le gouverneur général Theo Lane se réveilla en musique. Clignant des yeux, il regarda autour de lui et reconnut la cuve nutritive voisine et l'infirmerie de bord comme dans un rêve. Puis il s'aperçut qu'il portait un pyjama noir et qu'il se trouvait étendu sur la table d'examen de la salle d'infirmerie. Les événements des 12 dernières heures commencèrent à lui revenir en mémoire. On l'avait sorti de la cuve médicale et on l'avait couvert de capteurs. Le consul et un autre homme s'étaient penchés sur lui pour lui poser des questions. Il y avait répondu comme s'il était conscient. Puis il s'était rendormi pour rêver d'Hyperion et de ses cités en flammes. Ou plutôt non, ce n'était pas exactement des rêves. Il se redressa et se sentit presque flotter quand il descendit de la table d'examen. Il trouva ses vêtements, nettoyés et repassés, sur une étagère voisine. Il s'habilla rapidement, sans cesser d'écouter la musique, dont les accents, variant en intensité, avaient une qualité acoustique qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un enregistrement, mais d'un morceau interprété en direct. Il prit l'escalier qui conduisait au salon et s'arrêta, surpris, en voyant que le vaisseau était ouvert sur l'extérieur, que le balcon était sorti, et que le champ de confinement ne semblait pas fonctionner. La gravité sous ses pieds était minime, à peine suffisante pour lui faire toucher le sol. Probablement 20% de moins que sur Hyperion, peut-être 1/6 de jet standard. La lumière solaire entrait à profusion dans le salon où le consul jouait de son antique instrument qu'il appelait piano. Théo reconnut également l'archéologue, Arundez, appuyé contre l'ouverture de la coque, un verre à la main. L'air que jouait le consul semblait très vieux et très complexe. Ses mains couraient sur le clavier dans un flou étudié. Théo se rapprocha de l'archéologue souriant pour lui dire quelque chose, mais s'immobilisa, la bouche ouverte, stupéfié par ce qu'il voyait. Devant le balcon du vaisseau, 30 mètres plus bas, sur une pelouse verdoyante qu'éclairait un soleil radieux et qui s'étendait jusqu'à un horizon beaucoup trop proche, des gens étaient groupés dans des attitudes détendues, écoutant visiblement le concert impromptu du consul. Et quelle assistance ils formaient! Il y avait des individus très grands et très maigres, qui devaient être des esthètes d'Epsilon Eridani, pâles et chauves dans leurs robes bleues diaphanes. Mais à côté d'eux et derrière eux, une multitude étonnante de types humains écoutait aussi la musique du consul. Il y avait là plus de variété que le Retz n'en avait jamais connu. Des humains velus ou couverts d'écailles, des humains au corps de guêpe, avec des yeux en conséquence, des organes récepteurs à multiples facettes et des antennes. Des humains aussi minces et fragiles que des sculptures en fil de fer, avec de grandes ailes noires issues de leurs épaules fines et drapées autour d'eux comme des capes. Des humains trapus, apparemment adaptés à des mondes à gravité élevée. D'autres aussi massifs et musclés qu'un buffle, auprès desquels un lusien aurait pu passer pour fragile. D'autres encore au corps trapu et aux longs bras recouverts d'un duvet orangé, que seul leur visage diaphane, à l'aspect sensible, différenciait de celui d'un ancien orang-outan de la Terre tel que les Zolos le représentaient. Et il y en avait encore d'autres, à l'aspect plus lémurien qu'humanoïde, ou qui semblaient se rapprocher plus de l'aigle, du lion, de l'ours, ou de l'anthropoïde que de l'homme à proprement parler. Pourtant, Théo savait qu'il s'agissait bien d'êtres humains, quelles que fussent leurs différences d'aspect. Leur regard attentif, leur posture relaxée, ainsi qu'une centaine d'autres détails subtils, jusqu'à la manière dont une mère aux ailes de papillon tenait son bébé dans ses bras, ne laissait subsister aucun doute sur leur humanité commune. Melio Arundez se tourna à ce moment-là vers lui et sourit en voyant son expression. « Des extros !» chuchota-t-il. Sidéré,
Theo Lane ne put que secouer la tête en continuant d'écouter la musique. Les extros étaient des barbares qui n'avaient rien à voir avec ces créatures magnifiques et éthérées. Ceux qui avaient été capturés sur Brescia, sans parler des morts qui jonchaient les champs de bataille, avaient tous la même morphologie. Ils étaient grands et maigres, assurément, mais ressemblaient plus à des citoyens moyens du Retz qu'à cette panoplie époustouflante de formes et de couleurs. Il secoua de nouveau la tête tandis que le piano du consul atteignait un crescendo qui s'achevait sur une note cristalline. Les centaines de créatures qui composaient l'assistance sur la pelouse applaudirent en un crépitement soutenu qui fit vibrer l'atmosphère sèche et raréfiée. Théo les regarda se lever, s'étirer et prendre des directions diverses. Certains disparurent rapidement derrière l'horizon trop proche. D'autres déployèrent leurs ailes de 8 mètres et s'envolèrent. Un groupe se rapprocha du vaisseau. Le consul se leva. En apercevant Théo, il lui sourit.
« Vous arrivez à point, » lui dit-il en lui donnant une tape sur l'épaule. « Les négociations vont bientôt commencer. »
Théo Lane battit des paupières. 3 extros descendirent se poser sur le balcon et replièrent soigneusement leurs ailes dans leur dos. Ils avaient tous une fourrure épaisse, ornée de rayures ou de taches diverses, d'aspect aussi organique que celui de n'importe quelle créature sauvage de l'ancienne Terre.
« Toujours aussi merveilleux !»
déclara l'extro le plus proche du consul, qui avait un visage léonin au nez épaté et aux yeux dorés entourés d'une crête de duvet fauve.
« Le dernier était bien la fantaisie en ré mineur qu'avait 397 de Mozart, n'est-ce pas ?»«
C'est exact, » répondit le consul. « Librem Vents, je voudrais vous présenter H.T.O. Lane, gouverneur général du protectorat de l'hégémonie, Hyperion. »
Le regard léonin se tourna vers Théo.
« Très honoré !»
déclara Librem Vents en tendant une main velue.
« C'est un plaisir pour moi que de faire votre connaissance, monsieur. »
murmura Théo en se demandant s'il était encore dans la cuve thérapeutique en train de rêver cette scène. Mais la caresse du soleil sur sa joue et le contact ferme de la main de l'extro lui suggéraient le contraire, tandis que Librem Vents s'adressait de nouveau au consul.
« Au nom de l'agrégat, je vous remercie de nous avoir donné ce concert. Il y avait trop d'années que nous ne vous avions pas entendu jouer, mon cher ami. »
Il jeta un coup d'œil autour de lui.
« Les entretiens peuvent avoir lieu ici ou dans l'une des unités administratives, à votre convenance. »
Le consul n'hésita qu'une seconde.
« Nous sommes 3, Librem Vents, et vous êtes nombreux. » « Nous nous joindrons à vous. »
L'homme, aux traits léonins, hocha la tête et leva les yeux vers le ciel.
« Un bateau viendra vous chercher, » dit-il.
Il se dirigea vers la balustrade avec les 2 autres et l'enjamba. Ils se laissèrent tomber sur plusieurs mètres avant de déployer leurs ailes complexes et de s'éloigner en direction de l'horizon.
« Seigneur !»
murmura Théo en agrippant le bras du consul.
« Où sommes-nous donc ?»«
Dans l'essaim, »
fit le consul en couvrant le clavier du Steinway. Il précéda les autres à l'intérieur, attendit qu'Arundes s'écarte, et fit rentrer le balcon.
« Sur quoi vont porter les négociations ?»
demanda Théo. Le consul se frotta les yeux. Il donnait l'impression de n'avoir pas dormi du tout durant les 10 ou 12 heures qu'avait duré le séjour de Théo dans la cuve.
« Cela dépend du prochain message de la présidente Gladstone, » dit-il.
Il fit un signe de tête en direction de la fosse Hollow que des colonnes de transmission de données rendaient floues. Une salve Mégatrans était en cours de déchiffrage sur la tablette à code unique du vaisseau. Mayna Gladstone entra dans la salle d'hôpital de la maison du gouvernement, escortée par des médecins qui l'accompagnèrent au chevet de Paul Duret.
« Comment va-t-il ? »
demanda-t-elle à Irma Androneva, le médecin attaché à la présidence.
« Il souffre de brûlures au second degré sur environ 1/3 de son corps. Il a perdu ses sourcils et une partie de sa chevelure qui n'était déjà pas très fournie au départ. Il y a aussi quelques brûlures dues à des radiations tertiaires sur le côté gauche du visage et du corps.
Nous avons régénéré l'épiderme et pratiqué des injections ARN de référence. Il ne souffre pas et il est conscient. Il y a le problème du parasite cruciforme sur sa poitrine, mais il ne met pas directement les jours du patient en danger.
Radiation tertiaire, répéta Gladstone en s'immobilisant hors de portée de l'oreille de la section où Duret attendait.
Dû à des bombes au plasma ?
Oui, répondit un autre médecin que Gladstone ne connaissait pas. Nous avons pu déterminer avec certitude que cet homme s'était distransporté du bosquet de Dieu à peine une seconde ou deux avant la destruction de la liaison distrans.
Très bien,
déclara Gladstone en s'arrêtant devant le caisson flottant où était allongé Duret.
Je voudrais lui parler en privé, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Les deux médecins échangèrent un regard, firent signe à une infirmière méca de regagner son logement mural, puis sortirent en refermant derrière eux la porte de la section.
Père Duret ?
Demanda Gladstone, qui le reconnaissait d'après les holos qu'elle avait vus de lui et d'après les descriptions de Séverne relatives au pèlerinage. Le visage du prêtre était violacé et bouffi, luisant de produits régénérateurs et de pulvérisation analgésique. Malgré tout cela, ses traits restaient vigoureux et impressionnants.
« Hache présidente, » murmura-t-il en la voyant.
Il fit un effort pour se redresser, mais Gladstone posa doucement la main sur son épaule.
« Restez comme vous êtes, » dit-elle. « Vous sentez-vous capable de me raconter brièvement ce qui s'est passé ?»
Le vieux jésuite hocha la tête. Des larmes brillaient dans ses yeux.
La voix authentique de l'arbre-monde ne croyait pas à la réalité d'une attaque,
commença-t-il d'une voix faible et rauque.
Sek Hardin était sûr que les extros respecteraient le pacte qu'ils avaient passé avec les Templiers. J'ignore de quel accord il s'agit exactement. Le fait est qu'ils ont attaqué la planète avec des engins tactiques, des bombes au plasma, des armes nucléaires aussi, je pense.
Oui, fit Gladstone. Nous sommes au courant. Ce que je veux savoir, Père Duret, c'est ce qui s'est passé exactement à partir du moment où vous êtes entré dans le caveau d'Hyperion.
Les yeux de Duret se fixèrent sur le visage de la présidente.
Vous êtes au courant de cela aussi ?
Oui. Et de presque tout ce qui s'est passé avant. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur le reste. Beaucoup plus.
Duret ferma à demi les yeux.
Le labyrinthe.
Comment ?
Le labyrinthe,
reprit-il d'une voix plus forte. Il se racla la gorge, puis lui raconta son voyage à travers les galeries où s'entassaient les morts, sa translation sur un vaisseau de la Force et sa rencontre avec Séverne sur Passem.
Vous êtes sûr que Séverne venait ici ? À la maison du gouvernement ?
Oui. Il était avec votre collaborateur, Hunt. Ils voulaient tous les deux revenir ici.
Gladstone hocha la tête. Elle toucha prudemment l'épaule du prêtre à un endroit où il n'avait pas de brûlure.
Les événements vont très vite, dit-elle. Séverne nous manque, de même que Leg Hunt. J'ai besoin d'un conseiller sur les affaires d'Hyperion. Voulez-vous rester avec moi ?
Duret parut quelques instants troublé.
Il faut que je retourne là-bas, sur Hyperion, hache présidente, dit-il enfin. Sol et les autres m'attendent.
Je comprends, fit Gladstone d'une voix apaisante. Dès qu'il y aura une possibilité, je vous promets de faciliter votre voyage. En attendant, le Retz est sous le coup d'une brutale offensive. Des millions de personnes sont en train de mourir ou en danger de mort. J'ai besoin de votre aide, Père Duret. Puis-je compter sur vous en attendant ?
Le prêtre soupira, puis laissa retomber sa tête en arrière.
C'est entendu, H. Président. Mais je ne vois pas très bien en quoi.
On frappa doucement à la porte à ce moment-là. Sedeptra Akasi entra et tendit un message sur pelure à la présidente. Celle-ci sourit en prenant connaissance.
Quand je vous disais que les choses vont très vite, mon père, écoutez cette nouvelle. Ce message de Passem nous informe que le collège des cardinaux s'est réuni dans la chapelle Sixtine
Elle haussa un sourcil. « J'ai oublié. Il s'agit bien de la vraie chapelle Sixtine ?»«
Oui. L'église l'a démontée pierre par pierre, fresque par fresque, pour la transférer sur Passem, quelque temps après la grande erreur. »
Gladstone baissa les yeux vers la pelure pour reprendre sa lecture. C'est réuni dans la chapelle Sixtine pour procéder à l'élection d'un nouveau pontife.
Sitôt, murmura Duré en fermant de nouveau les yeux. Ils ont dû estimer, eux aussi, qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Passem se trouve à une dizaine de jours, je pense, de la vague d'invasion extro. Mais ils sont quand même allés un peu vite en besogne.
Vous n'êtes pas curieux de savoir le nom du nouveau pape ?
Ce doit être ou bien le cardinal Antonio Guarducci, ou bien le cardinal Agostino Rudel. Personne d'autre, à mon avis, ne pourrait rassembler si vite une majorité suffisante.
Ni l'un ni l'autre. D'après l'évêque Édouard de la Curie romaine...
L'évêque Édouard ? Pardonnez-moi, âge présidente. Continuez, je vous prie.
D'après l'évêque Édouard, le Collège des cardinaux a élu, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, quelqu'un dont le rang était inférieur à celui de Monsignor. Il est écrit ici que le nouveau pape serait un prêtre jésuite du nom de Paul Duré.
Malgré ses blessures, celui-ci se redressa dans son caisson flottant.
« Que dites-vous ? »
fit-il d'une voix incrédule.
Gladstone lui tendit la pelure.
« Lisez vous-même. »«
C'est impossible, » murmura Duré.
« Aucun pontife n'a jamais été élu au-dessous du grade de Monsignor, sauf symboliquement une fois. Il s'agissait du Saint Belvédère, après la grande erreur et le miracle de... Non, c'est tout à fait impossible. »
L'évêque Édouard essaie de vous joindre depuis tout à l'heure, d'après ma collaboratrice. Si vous voulez, nous allons vous transmettre l'appel ici, mon père. Ou bien, dois-je dire votre sainteté ?
Ajouta-t-elle sans laisser percer aucune ironie dans sa voix. Duré leva les yeux vers elle, encore trop abasourdi pour parler.
« Je vous fais transmettre la communication, » reprit Gladstone. « Nous veillerons à ce que vous puissiez regagner Passem aussi rapidement que possible, votre sainteté. Mais je vous serai reconnaissante de ne pas perdre le contact avec nous. J'ai réellement besoin de vos conseils. »
Duré hocha la tête et regarda de nouveau la pelure. Le téléphone posé sur une tablette à côté de la cuve se mit à clignoter. La présidente sortit dans le couloir, mit les médecins au courant de la nouvelle, puis contacta ses services de sécurité afin d'autoriser les déplacements d'Istrance de l'évêque Édouard et des autres dignitaires de l'église à partir de Passem. Puis elle se distransporta dans ses appartements de l'aile résidentielle. Cédeptra lui rappela que le conseil de guerre reprenait sa session dans 8 minutes. Gladstone hocha la tête, attendit que sa collaboratrice reparte, et retourna jusqu'à la niche de méga-transmission dissimulée dans le mur. Elle activa les champs de protection sonique anti-écoute et introduisit la disquette de transmission codée destinée au vaisseau du consul. Tous les récepteurs Mégatrans du Retz, des confins, de la galaxie et de l'univers allaient recevoir la salve, mais seul le vaisseau du consul serait en mesure de la décoder. Il fallait du moins l'espérer. Le voyant rouge de la caméra holo clignota. Gladstone se pencha vers le micro pour prononcer d'une voix ferme et claire.
À en juger par les salves automatiques émises par votre vaisseau, vous avez finalement choisi de rencontrer les extros. Et ils vous ont laissé approcher. Je supposerai donc que vous avez survécu à la première entrevue.
Elle reprit sa respiration.
Au nom de l'hégémonie, reprit-elle, je vous ai demandé beaucoup de sacrifices au fil des ans. Aujourd'hui, c'est au nom de l'humanité que j'aimerais vous voir éclaircir les points suivants. Premièrement, pourquoi les extros attaquent-ils et détruisent-ils les mondes du Retz ? Vous étiez convaincu, de même que Byron Lamia et moi-même, qu'ils ne s'intéressaient qu'à Hyperion. Pourquoi ont-ils changé d'attitude sur ce point ? Deuxièmement, où se trouve le technocentre ? Il faut absolument que je le sache, pour le cas où nous aurions à le combattre.
Les extros auraient-ils oublié que le centre est notre ennemi commun? Troisièmement, quelles sont leurs exigences en échange d'un cessez-le-feu immédiat? Je suis prête à beaucoup de sacrifices pour nous débarrasser de la domination du centre, mais le massacre doit cesser. Quatrièmement, le dirigeant de l'agrégat de l'Essaim accepterait-il de me rencontrer en personne? Je suis disposé à me distransporter dans le système d'Hyperion si nécessaire. La plus grande partie des éléments de notre flotte ont évacué le système, mais il reste un vaisseau portier, avec ses bâtiments d'escorte, à proximité de la sphère de singularité. Le dirigeant de l'Essaim doit prendre sa décision très vite, car la Force insiste pour détruire cette sphère. Hyperion sera alors séparé du Retz par 3 années de déficit temporel. Enfin, il est important que le dirigeant de l'Essaim sache que le centre voudrait nous faire utiliser une sorte de bâton de la mort de très forte puissance pour contrer l'invasion extro. Plusieurs responsables de la Force sont d'accord sur le principe. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous ne le permettrons pas, je le répète, nous ne permettrons pas que les extros envahissent le Retz. À vous de jouer maintenant. Veuillez accuser réception du présent message et me tenir au courant par Mégatrans dès que les négociations auront commencé.
Elle regarda la caméra avec intensité, comme si elle voulait faire passer à travers les années-lumière la force de sa conviction et de sa sincérité.
Je vous adjure, au nom de ce que l'humanité a de plus cher et de plus sacré, de faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour réussir dans cette mission.
La salve Mégatrans fut suivie de 2 minutes d'images sautillantes montrant la mort d'Evans Gate et du Bosquet de Dieu. Le consul, Melio Arundez et Theo Lane demeurèrent silencieux pendant plusieurs secondes après la fin de la transmission.
Réponse ? Demanda le vaisseau.
Le consul s'éclaircit la voix.
Accusez réception du message. Transmettez nos coordonnées.
Il se tourna vers les 2 hommes qui lui faisaient face, de l'autre côté de la fosse au lot.
Messieurs.
Arundez secoua la tête comme pour se rendre les idées plus claires.
Il est évident que ce n'est pas la première fois que vous venez dans cet essaim extro, dit-il.
C'est exact. Après l'affaire de Brescia, après que ma femme et mon fils... Après Brescia, il y a pas mal de temps de cela, j'ai déjà négocié avec cet essaim.
Vous représentiez l'hégémonie ?
Demanda Théo, dont le visage de rouquin semblait plus vieux et plus ridé que d'ordinaire.
Je représentais le parti de Gladstone, répliqua le consul. Elle était alors simple sénateur. Sa faction m'avait expliqué qu'il existait des rivalités internes au technocentre et que l'annexion d'Hyperion au Retz en tant que protectorat pouvait exacerber ces rivalités. La meilleure manière de provoquer cela était de laisser filtrer des informations qui, parvenues aux oreilles des extros, les inciteraient à attaquer Hyperion, ce qui conduirait la flotte de l'hégémonie à intervenir.
Et vous avez accepté ? De jouer un tel rôle ?
Demanda Arundez. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, bien que sa femme et ses enfants fussent encore sur le vecteur Renaissance, actuellement à moins de 80 heures de la vague d'invasion. Le consul se laissa aller en arrière contre les coussins.
Pas exactement. J'ai dévoilé la chose aux extros. Ils m'ont demandé de regagner leur Retz comme agent double. Leur intention était de s'emparer d'Hyperion, mais seulement au moment qu'ils choisiraient eux-mêmes.
Théo se pencha en avant, les mains nouées avec force.
Et durant toutes ces années, au consulat,
j'attendais un mot des extros,
fit le consul d'une voix sans intonation.
Voyez-vous, ils possédaient une machine capable d'annihiler les champs anthropiques autour des tombeaux du temps. Il voulait les ouvrir au moment opportun, pour permettre aux Gritch de s'échapper.
« Ce sont donc les extros qui ont fait cela ?»
murmura Théo.
« Non, c'est moi. Je les ai trahis exactement de la même manière que j'avais trahi Gladstone et l'hégémonie. J'ai abattu la femme extro qui était en train de calibrer la machine. J'ai abattu ensuite le technicien qui travaillait avec elle. Et j'ai activé le mécanisme. »
Les champs anthropiques se sont effondrés. Le dernier pèlerinage a été organisé. Le Gritch est libre.
Théo regardait son ex-mentor sans comprendre. Il y avait plus d'étonnement que de colère dans ses yeux verts.
Pourquoi ?
Demanda-t-il.
Pourquoi avez-vous fait cela ?
Le consul leur parla brièvement, d'une voix sans passion, de sa grand-mère Siri, d'Alliance Maui, et de la révolte qu'elle avait menée contre l'hégémonie. Une révolte qui n'avait pas pris fin avec sa mort ni avec celle de son amant, le grand-père du consul. Arundez se leva et marcha jusqu'à la fenêtre opposée au balcon. Le soleil ruisselait sur ses jambes et sur la moquette outre-mer.
« Les extros sont-ils au courant de ce que vous avez fait ? »
demanda-t-il.
« Maintenant, oui. J'ai tout raconté à Librom Vance et aux autres lorsque nous sommes arrivés. »
Théo se mit à faire les 100 pas sur toute la largeur de la fosse Holo.
Cette réunion à laquelle nous nous rendons sera donc peut-être un procès ?
Ou une exécution, fit le consul en souriant.
Théo s'immobilisa, les deux poings serrés.
Et Gladstone le savait quand elle vous a demandé de revenir ici ?
Oui.
Je ne sais pas si je souhaite qu'il vous exécute ou non,
murmura Théo.
Moi non plus, avoua le consul.
Melio Arundez détourna les yeux de la fenêtre.
Vance ne nous a-t-il pas dit qu'il nous envoyait un bateau ?
Quelque chose dans son intonation incita les deux autres à se rapprocher de la fenêtre. Le monde sur lequel ils étaient posés était un astéroïde de taille moyenne, que l'on avait entouré d'un champ de confinement de classe 10, et que l'on avait restructuré en forme de sphère, par un apport d'atmosphère et d'eau et par un patient travail de terraformation qui avait duré des générations. Le soleil d'Hyperion était en train de se coucher derrière l'horizon trop proche, et les quelques kilomètres de prairies informes que l'on apercevait ondoyaient sous une brise changeante. À la base du vaisseau coulait un large cours d'eau ou une rivière étroite qui, à l'approche de l'horizon, semblait se dresser verticalement pour se transformer en cascade, percer le champ de confinement lointain, puis se perdre en méandre dans l'immensité noire de l'espace où elle devenait trop filiforme pour être encore visible. Un bateau était en train de descendre cette chute d'eau d'une hauteur incroyable. Il s'approchait rapidement de la surface du planétoïde. Des silhouettes humaines devenaient visibles à la proue et près de la poupe.
« Seigneur !» murmura Théo.
« Nous ferions mieux de nous préparer, » déclara le consul. « Je crois que c'est notre escorte qui arrive. »
Le soleil était en train de se coucher avec une rapidité surprenante. Ses derniers rayons transperçaient le rideau liquide à 500 mètres au-dessus de la surface plongée dans la pénombre et diffusaient dans le ciel bleu marine des arcs-en-ciel aux couleurs vives et à l'aspect solide presque effrayant.